La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Vous écoutez
RMC.
RMC. Serge Aurier, eh ben t'as la moutarde qui commence à lui monter au nez et qui commence à rentrer justement dans cette idée, on va commencer à mettre des coups, et ben Versailles fait.
Moi je fais du financement immobilier. Quand je finance des fonds, quand un fonds achète une tour à la Défense, il y a un bail commercial en 3-6-9.
Il y a un truc, je suis désolé.
Oui.
C'est pas Oscar Wilde, mais c'est Oscar Wilde.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After, vous l'avez compris, avec David Guzman, avec Elton Mokolo et Walid Acherchour, hein, 21h01. À 22h, l'After, hein, prendra le relais. Thibaut Jean-Grande, Daniel Riolo sont là, bien sûr. Alors, on poursuit, on finit sur l'Euro. Tu nous as appelé aujourd'hui, Elton. Tu nous as dit que tu voulais développer un avis intitulé « Le foot de sélection est de plus en plus maltraité ». Jingle, Elton.
Je pense avoir un peu de métier pour pouvoir gérer ces situations.
Tu parlais de quoi? Tu te rappelles?
Alors là, je m'en rappelle plus. J'ai beau chercher, mais je me souviens pas.
C'est un peu Gégrova, là, quand même, dans l'esprit.
Ouais. Hein. Peut-être des boîtes
c'est
de nuit.
C'est Gégrova qui veut partir dans un plus grand club.
Peut-être devoir le vendre ailleurs.
Je pense qu'il parlait des boîtes de nuit.
Non, je vois pas de quoi tu parles. Elle était en train de calomnier devant des milliers, des millions même.
Des centaines de milliers, c'est des centaines. Millions doucement, mais centaines de milliers, c'est bien déjà.
Ouais, c'est déjà ce que
c'est, 1 million.
Quoi qu'avec le podcast, c'est beaucoup. C'est plus. Plus d'un million. Alors vas-y, on t'écoute mon cher Elton, pourquoi le foot de sélection est maltraité?
Écoute Nico, c'est un amoureux du football de sélection qui te parle, un vrai amoureux de sélection, de football de sélection, parce que moi je pense qu'il n'y a rien de plus beau que la Coupe du Monde, que l'Euro, que la Coupe d'Afrique, que la Coupe América. C'est celle qui élève les joueurs, on peut pas expliquer Zinedine Zidane 198, Antoine Griezmann 2016. Et par rapport à ça, j'ai vu que le football de sélection est maltraité. Il n'y a pas d'autre mot quand on voit les préparations des différentes sélections qui sont tronquées. Si tu veux, j'ai vu les matchs de l'équipe de France, on est beaucoup plus sur des matchs basic fit, fitness mark, des matchs qui sont remis en forme, plutôt que des matchs de préparation. J'ai pas vu des équipes qui montent en puissance, j'ai vu des équipes qui donnaient des minutes à des joueurs qui soit sont en manque de rythme, soit ont trop joué. Il y a qu'à voir l'exemple récent, Kamavinga qui, samedi 1er juin, jouait une finale de Ligue des Champions et à peine 3 jours plus tard, il entre sur le match contre le Luxembourg. On avait aussi des exemples du côté de la sélection anglaise où Bellingham, on lui accordait une semaine complète parce que le joueur, aussi bien physiquement que psychologiquement, n'était pas prêt pour attaquer un match d'Angleterre. Et la prochaine fois qu'on va revoir Bellingham, ça va être l'occasion du premier match de l'Angleterre contre la Serbie. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que les premiers matchs de l'Euro risquent d'y avoir beaucoup de surprises parce que les grandes équipes ne sont pas prêtes pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas accordé assez d'importance à la préparation. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait une vraie préparation pour les sélections, c'est-à-dire 3 semaines au minimum. Là, on va avoir deux semaines où, en gros, on va essayer d'avoir des équipes compétitives, mais qui ne seront pas des premiers matchs. Ça va occasionner des surprises. Et moi, par rapport à ça, je pense que l'UEFA, et j'insiste là-dessus, l'UEFA est caution de ça et responsable de ça, dans le fait de ne pas avoir accordé suffisamment de temps pour préparer ce qui doit être sa compétition. Et moi, ce qui va m'énerver, Nico, c'est que on va dire que l'Euro, ça va être une compétition au rabais, alors que les conditions ne sont pas réunies pour avoir un football de qualité. Il y aura peut-être des surprises pour le grand public, mais moi, en tant qu'amoureux du football de sélection, ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement les surprises, mais c'est la qualité du football. Donc c'est pour ça que j'en appelle notamment aux instances, notamment l'UEFA et chez Ferrine, c'est
qu'ils nous écoutent.
Il faut privilégier le football de sélection.
Il faut un podcast, c'est Ferrine.
Il faut avoir une vraie période accordée à ça, et moi j'espère que à l'avenir, on aura 3 semaines au minimum de préparation entre la finale de la Ligue des Champions et le premier match de compétition, l'Euro, on est capable de faire. Il y a des solutions, à savoir mettre les finales de coupe bien avant, trouver des subterfuges pour que les championnats se finissent beaucoup plus tôt. Et là, on a eu quand même des conséquences qui sont très déplorables, notamment pour la sélection. Un Coupe Miners qui joue le 2 juin avec l'Atalanta, et ben finalement il sera pas présent pour les Pays-Bas parce qu'il a joué tardivement. Et on peut pas négliger l'impact qu'a eu la victoire de l'Atalanta sur le corps de Coupe Miners. Ça, tout ça, ces éléments font que le football de sélection aujourd'hui est maltraité parce que on fait pas assez attention et qu'on arrive à quoi? On va arriver à une compétition qui risque d'être au rabais. Et ça me plaît pas.
Alors, c'est le débat. Vous nous appelez au 32-16 pour en parler avec Elton, Walid et David. Effectivement, je sais pas s'il y aura débat, vous êtes d'accord avec lui. Tu l'as bien précisé, il y a ceux qui vont regarder l'Euro, tu parles du grand public par exemple, ou ceux qui n'attendent pas forcément la même chose, une compétition d'été. Hein. C'est juste affrontement entre pays, entre sélections, peu importe la qualité, c'est l'enjeu qui compte, l'intensité de l'événement, le suspense et le triomphe à la fin, ou pas d'ailleurs. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que pour vous, vous avez le sentiment déjà qu'on maltraite cette compétition, Coupe du Monde Euro, et est-ce que pour vous, c'est un problème réellement?
Mais moi, j'en ai marre,
on s'en fout, c'est super.
Non,
on a les sélections qui vont s'affronter, ça suffit.
Moi, je suis d'accord avec Elton.
Ligue des champions pour le.
Moi, j'en ai marre de ce marchandage au rabais. C'est-à-dire que pour contrebalancer justement ce manque de préparation, il y a eu un élargissement de l'UEFA. Un élargissement de quoi? Et ces deux élargissements m'énervent. L'élargissement des groupes, déjà, à 26. Je trouve que d'un point de vue ressources humaines, d'un point de vue humain, c'est trop.
25,
c'est, non 26.
26.
Certains sélectionneurs ont.
Ah, que tu parlais des équipes.
Non.
Des joueurs
à 26. Et donc en fait, moi j'aimais les groupes réduits où ça faisait plus appel au coaching, à la créativité des sélectionneurs et l'élargissement de la compétition et l'abaissement du seuil de qualification. C'est-à-dire qu'il y a deux tiers des équipes qui peuvent se qualifier en phase finale. Avec cette règle du meilleur troisième. Et moi, j'ai grandi avec un format d'Euro qui était élitiste. Il y avait les meilleures équipes d'Europe et c'était, il y avait quatre poules et c'était les deux meilleures.
16 sélections.
Et c'était les deux meilleures équipes et c'était les deux meilleures qui passaient. Alors là, en accordant cet élargissement, on donne le droit aux équipes de considérer le premier, voire le deuxième match comme des matchs de préparation.
Exactement.
Le Portugal gagne l'Euro en faisant trois matchs nuls dans une poule pas relevée. Et moi, traiter, donner la compétition comme des matchs de préparation, moi, ça m'agace profondément.
Walid, ton avis là-dessus?
Non, mais moi, on a déjà eu ce débat, notamment sur les réseaux avec David, par rapport à la CAN, sur l'élargissement. Oui, bien évidemment que on est des enfants de l'Euro à 16 et l'Euro 2000 et la compétition la plus relevée que j'ai vue, moi, dans ma vie. Et c'était une compétition, la plus grande compétition que j'ai pu voir de mon vivant.
Elle était dense.
Ouais, elle était dense, elle était même brutale, en fait. Elle était brutale. Tu ratais un match, c'était finalement presque terminé, quoi.
Tu ratais 10 minutes, c'était terminé.
Exactement. Maintenant, il y a l'histoire de... Peut-être c'est différent entre l'Europe et l'Afrique, mais la fête du football européen, que l'on veuille ou non, c'est qu'à un moment donné, comme pour l'Afrique, la CAN à 24 ou l'Euro à 24, ça te permet aussi d'ouvrir un peu plus de pays, d'avoir une renommée un peu plus grande. Moi, je suis pas définitif. Après, sur l'avis tranché d'Elton, on peut que être d'accord avec ce qu'il dit.
Ça fait quand même plaisir ce que tu dis.
Non, mais c'est pas... On découvre pas. En fait, là où je suis étonné, c'est que tu nous le dises aujourd'hui en 2024. On découvre pas ça aujourd'hui. C'est que sur les dernières compétitions, déjà, c'était très très compliqué.
Ah, mais Walid, là, c'est poussé. Tu te rends compte qu'il y a des clubs qui vont faire des tournées alors que les joueurs sont carbo.
Ah oui, ça c'est.
Ça me plaît pas, ça.
Par
ça,
et oui, à côté. Ça,
par
et à côté.
Par du Milan notamment. Qui
Milan, Tottenham.
Le Milan aussi.
Newcastle. Et à côté de ça, en fait, en Angleterre, par exemple, tu supprimes les replays en coupe. En fait, c'est complètement hypocrite. Mais je pense
mais
que
par rapport à avant,
le changement viendra des joueurs, Walid. Non, le changement ne viendra que des joueurs, pas des entraîneurs.
Non, mais le combat est perdu.
J'ai une question par rapport à avant. Quand on expliquait en 2006, etc., notamment la préparation.
Tu crois quand ils allaient à Tignes, ils allaient à la grande motte et tout. C'était impossible aujourd'hui.
Non, mais il y avait combien de temps?
Là, t'as 3 semaines en réalité. Ce que nous rappelle Mani sur le chat, 25 mai, finale Ligue des Champions.
Non, la finale Mani, c'était le
1er juin, d'accord.
C'était le 1er juin, 25 mai.
Mais tout le monde n'a pas fini le 1er juin.
Oui, tout le monde n'a pas fini le 1er juin.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grosso modo, t'as eu 3 semaines pour la grande majorité des joueurs.
On va dire une équipe slovène.
Ouais.
Une équipe slovène qui n'a pas eu de joueurs.
Bah, ça va la favoriser.
Non, mais qui n'a pas eu. Donc elle a eu combien? Elle a eu un mois de. Elle a eu,
ouais,
elle a eu un mois de compétition. Ouais. Elle a eu un mois d'arrêt.
Ça
un mois de préparation.
Les internationaux qui jouent. Ça veut dire qu'ils jouent dans les 5 grands championnats européens.
Oui,
aussi.
À la marge, un ou deux. Il y a pas eu. Il y a pas de. Mm-hmm. Est-ce qu'on retrouve le même timing qu'avant, comme on pouvait avoir avec Tignes, où on se disait quand tu vas aller à la Coupe du Monde, tu repartais sur.
Je pense que c'est
une grosse préparation.
C'est aussi une question du nombre de matchs aussi. Il y a clairement plus de matchs qu'avant. Maintenant, les joueurs jouent soit 60-70 matchs. Donc comparer, certes, c'est intéressant, mais il faut aussi comparer dans quel état arrivent les joueurs lors des grandes compétitions. Oui. Imagine qu'il y a championnat du monde des clubs encore l'année prochaine. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Il y a des joueurs qui n'ont pas de préparation, de vraie préparation estivale, pendant 3-4 ans. Harry Kane, pendant 5 ans.
Après, moi, David, peut-être que je passe pour le fou de l'histoire, mais j'ai du mal. J'aurais du mal après l'Euro ou pendant l'Euro à me dire ouais ben le niveau il est mauvais parce que en fait il a manqué une semaine ou deux semaines si de préparation à une sélection. Moi je côtoie un sélectionneur, on côtoie un sélectionneur depuis quand même 12 ans. C'est-à-dire que tu lui rajoutes deux semaines, trois semaines ou un mois, on va pas non plus voir un football.
Moi, ce qui me dérange, c'est que ça favorise le football de réaction et pas de proposition.
Bien sûr.
Le fait de pas avoir, en fait, justement, cette fraîcheur.
Mais tu penses que si on donne plus de temps,
ça m'ennuie que ce soit toujours les équipes de réaction et pas de proposition qui finissent par gagner. C'est pas seulement une question de fraîcheur physique. C'est aussi dû au fait qu'il y a très peu d'équipes nationales maintenant qui alignent plusieurs joueurs d'un même club, comme à l'époque l'équipe d'Espagne qui était très marquée par le Barça, ou l'équipe d'Allemagne qui était très, très marquée par le Bayern. Mais j'en ai marre, en fait, que ce manque de préparation favorise le football de réaction.
Et sur Deschamps, pour revenir sur Deschamps, c'est à un moment donné, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais à partir du moment où il peut pas compter sur Tchouaméni, sur Rabiot, et que côté de ça, il a moins d'une semaine de préparation, il va faire de l'opérationnel.
Excusez-moi, Elton.
Il va dire que c'est pas des joueurs frissons.
Mais c'est l'eau de toutes les sélections, et depuis l'histoire, dans l'histoire du football.
Non, c'est faux.
Il n'y a jamais eu de blessure dans l'histoire du football avant, ça, à l'Euro 2000, tout le monde, en fait, jouait.
Je te dis juste que les années, plus ça va, plus à chaque fois, on empiète sur le football de sélection, on rogne notamment leur jour de préparation. Je vous rappelle qu'avant, David l'a évoqué. C'est toi qui l'as évoqué.
Il s'agit d'une semaine, 10 jours. Hein, c'est ça.
Hein, on avait Tignes, on avait la Grande Motte, on avait des préparations spécifiques.
D'accord. Là, aujourd'hui, les voyages.
Font Romeux aussi.
Là, on a atteint le ridicule à l'occasion de la Coupe du Monde où les joueurs avaient moins d'une semaine.
Mais
pour
c'est
se
pour ça que j'ai envie que tu me donnes des chiffres. Donne-moi des chiffres aujourd'hui.
Ou des lettres.
Non, mais par
quel
rapport.
Genre de chiffres tu veux.
Non, mais par rapport à avant, explique-moi, fais-moi un petit tableau Excel. La différence avant, dans les années 2000, début des années 2000.
Vous savez que sur le calendrier, on avait regardé ça, on en avait parlé il y a à peu près un an dans Génération After. Tout le monde se plaint de beaucoup trop jouer, mais quand tu fais le point avec les nombres de matchs par saison des joueurs début années 2000 et aujourd'hui, ça se joue à rien quasiment en réalité, quoi.
Donc voilà,
je vais te donner un exemple. La Coupe du Monde 2006 qui est mise en avant, qui est vue comme l'une des plus grandes Coupes du Monde de son époque. Il faut savoir que la finale avec des champions a eu lieu le 17 mai 2006. Ouais. La compétition a démarré le 9 juin 2006.
Ok, donc
tu t'imagines le temps de préparation. C'est précisément ce que j'ai
dit. Et la fin des championnats.
La fin des championnats, c'était une semaine avant.
Donc il manque 10 jours.
Bah oui, mais 10 jours notamment pour se préparer, pour faire un reset, pour faire fi de ce qui s'est passé.
Elton veut un retour à Tignes ou à Font-Romeu.
Moi j'ai envie de voir Marco Le balancer des boules de neige sur Mbappé.
J'ai pas souvenir la Grande Motte, Guillaume est avec nous.
Non mais juste pour terminer avant Guillaume, et toi tu penses qu'avec ça, on va avoir un football meilleur?
On va s'en rapprocher. Oui, je suis convaincu de ça. C'est un parti pris.
Là, il parle d'individualité, pas tant de schéma, de tactique ou d'évolution d'une équipe. Il parle de joueurs plus en forme, plus à même de faire des grosses différences, plus de spectacles aussi peut-être. Okay. Bon, Guillaume est avec nous, 32-16. Salut Guillaume.
Salut Guillaume. Salut tout le monde.
Bienvenue. Je crois que t'es pas d'accord. Ouais.
Bon, j'espérais que vous m'invitiez à Tignes aussi parce que ça a l'air sympa.
Tu préfères la Grande Motte à mon avis, t'inquiète pas. C'est plus.
J'en ai connu, oui. Pardon.
Waouh. Alors Guillaume, concentrons-nous sur le foot. Toi, tu veux défendre le format d'un Euro à 24.
Oui. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, j'aime ça parce qu'en fait, je suis en contradiction avec ceux qui veulent juste un Euro à 8, un Euro à 12, un Euro à 16, qui veulent juste choisir leur sélection, presque se dire que l'Italie sera toujours la meilleure équipe du monde ou la meilleure équipe d'Europe, la France aussi, les Pays-Bas. Voilà. Si l'Italie ne doit pas aller à l'Euro, elle y va pas. Mais elle a encore moins de chance. D'ailleurs, elle n'a pas été à la Coupe du Monde la dernière fois parce que justement, elle n'était pas assez forte pour y aller parce que ça arrive que des grandes nations soient pas au niveau pour faire les compétitions internationales. Donc déjà, je suis pour ouvrir l'Euro a plus d'équipes, ce qui permet de protéger aussi des soi-disant grandes nations qui ne sont pas tout le temps, mais d'ouvrir aussi à des petites équipes. On a vu la Macédoine du Nord y participer, alors oui, quelquefois, ils prennent des branlées, mais ça leur apprend aussi, ça leur permet de se développer, et je pense que tout le monde y a droit. C'est déjà ça, c'est déjà super important pour moi.
Ouais, mais
Première chose.
Ouais, ok, vas-y, je te laisse.
C'est ce qui est primordial pour moi. Après, moi, je pense que justement, et je rejoins ce qui a été dit là dernièrement, on dit qu'il y a la prime de plus en plus aux équipes qui défendent, qui sont dans l'anti-jeu,
qui réagissent, je dis.
voilà, qui réagissent, oui, non, mais c'est une façon de, voilà, et plutôt que des joueurs offensifs et tout ça, mais en 2000 et en 98, on gagne l'Euro et la Coupe du Monde, c'est Aimé Jacquet, on a trois milieux défensifs, on joue avec deux joueurs extraordinaires devant.
En 2000, c'est Le Maire.
Non, mais oui, mais je veux dire, les deux fois, on gagne, et c'est pas du beau jeu. Je veux dire, on gagne
en 2000, c'est pas si mal.
En 2000, c'est pas si mal.
En 2000, c'est pas si mal, mais je veux dire, enfin. En 2006, c'est l'Italie qui gagne et on joue contre l'Italie aussi en 2000. Donc, je veux dire, c'est pas aussi l'évolution des matchs et c'est pas l'évolution de tout ça qui fait qu'on joue moins. C'est juste que de toute façon, tant que vous aurez pas des sélections, si vous voulez un championnat entre sélections performant avec des belles équipes du beau jeu, il faut leur laisser deux mois de préparation avant. Il faut faire un petit peu comme ce qui se fait au rugby, par exemple, quand ils jouent en septembre, les Coupes du Monde et qu'ils sont quasiment en juillet et en août en préparation. Parce que là, il y a des choses à travailler. On peut travailler des choses. Quand vous les avez, je dirais tous les deux ou trois mois, cinq jours de préparation avant des matchs internationaux pour les qualifications, ben c'est normal que vous n'ayez pas de beaux jeux. C'est logique. Par contre, si vous créez une Coupe du Monde, et ça sera peut-être plus agréable d'ailleurs pour tout le monde, en septembre, que vous la décalez, alors c'est décalé les championnats, c'est sûr, mais on l'a pu le faire pour la Coupe du Monde, que vous dites juillet-août, c'est les vacances, et après vous resserrez les championnats et vous diminuez un petit peu, oui, vous aurez du beau jeu, mais il faut savoir ce qu'on veut. Vous avez du beau jeu en club, pas du beau jeu en sélection, ouais. Mais c'est parce qu'en sélection, ils n'ont pas le temps de travailler, ils ne sont pas plus cons que les autres, bon, les entraîneurs.
Le beau jeu, c'est surtout en Ligue des Champions, hein, en tout cas.
Le beau jeu, après.
La question, c'est encore une fois, je vous pose la question, c'est.
C'est quoi le beau jeu, en fait?
Là, il y a l'esthète Elton Mokolo qui, lui, veut se régaler, veut voir des mouvements collectifs extraordinaires.
Je veux une compétition.
Pour l'écrasante majorité des gens qui vont regarder l'Euro, comme ceux qui regardent la Coupe du Monde, ce qui compte, c'est gagner chaque match, aller au bout, tout simplement.
Après, quoi qu'il arrive, le fameux spectacle, on l'a eu sur la dernière Coupe du Monde 2022. Autant à l'Euro 2016, c'était un.
Ça ne veut pas dire qualité. Hein.
Exactement, ouais, ça c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut nuancer. Et, enfin, il faut dissocier spectacle, niveau, compétitivité. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on recherche dans le football de sélection? Et est-ce que, moi, les yeux que j'avais en 2000, en 2006, en 2004 notamment, est-ce que si j'avais 30 ans, j'aurais eu le même regard et peut-être un peu plus d'exigence sur les prestations d'avant?
On va critiquer le positionnement de Zidane à gauche.
Non, mais voilà. Donc, non, mais encore une fois, tout dépend de d'où on se place. Alors, la question d'Elton, en fait, c'est sur la finale de la Ligue des Champions, en fait. Pourquoi la finale de la Ligue des Champions est le 1er juin?
Non, moi, je veux une meilleure harmonisation pour permettre aux sélections d'avoir une préparation spécifique pour
attaquer la compétition. Je crois qu'on a fait le tour. On connaît vos positions. Ouais. Elles sont différentes. On connaît la position de Guillaume. Merci Guillaume d'avoir fait 32-16. Tu reviens quand tu veux dans Génération After dans un instant. Tiens, on parle salary cap en Ligue 1 pour assainir nos clubs français et également de Bruno Guimaraes que Walid veut absolument voir au PSG. Le basket, match 4 de la finale du championnat de France entre le Paris Basket et l'AS Monaco. Bonsoir Novaladon.
Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Adidas Arena. 8000 personnes. Monaco qui mène 2-1 dans cette série. S'il y a victoire ce soir, ce sera le back-to-back, le deuxième titre de suite et un match à sens unique. Monaco a démarré par un 19-0. Paris a mis enfin deux paniers, 19-4, et à l'instant même, c'est Mike James, le meilleur joueur de Monaco et le meilleur joueur de ces playoffs, qui vient de mettre un nouveau 3 points. Attends, il est à 15 points.
15 points, d'accord, ok, en 5 minutes, quoi, magnifique.
En 5 minutes 20, incroyable Mike James.
Donc le mec, il est sur une. Bon, ça n'arrivera pas, hein, sur une moyenne de 30, 60, 90 points quasiment, là, pour ce match. Si tu fais les comptes, quoi. Même plus.
Écoute,
même.
Ça serait rendre hommage à Jerry West, une légende qui nous a quitté aujourd'hui. C'est l'homme du logo, celui de l'homme que vous voyez sur le logo de la NBA. C'est Jerry West qui s'est éteint, qui est une véritable légende. 24-7 désormais pour Monaco. Et on n'est que dans le premier quart-temps. Encore 4 minutes à jouer dans ce match.
Tout à l'heure, Arnaud, dans un instant, le retour de Génération After, bien sûr. La vie d'Elton, de David et de Walid. Reste avec nous sur RMC. À tout de suite.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur le kioskeapizza.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour, avec David Guzman et Elton Mokolo. Hein. Beaucoup de réactions sur ton avis, mon cher Elton. Hein. Surtout quand tu réclames le retour des stages à Tignes, à Val d'Isère peut-être, à la Grande Motte aussi. Je ne sais pas ce que vous préférez.
On peut te payer un séjour au ski si tu veux.
Ouais.
Non, mais lui il aime la dramaturgie, t'es les départs, t'es les mecs.
Ouais, bien sûr. Oui.
Je peux lancer une liste de 6.
C'est vrai ça. Sincèrement, j'ai 2-3 contacts.
Un jour, ou alors tu viendras un jour au RMC Sport Games.
Ouais, voilà.
En fin d'année.
Il n'y aura qu'un problème, parce que si c'est ça que tu veux.
Bah oui. Exactement. Maintenant que tu me l'as proposé, j'osais pas en fait.
Ouais. Bon, tiens, Messi, je l'ai pas dit également, annoncé que ce sera son dernier club, l'Inter Miami. Je vous donne comme ça, vite fait. Je peux vous dire également.
Il a aussi dit qu'il avait un peu peur d'arrêter sa carrière,
ouais, ouais. Ce qui est quand même jour touchant. Après jour.
Ouais.
Ah, il est touchant, cet homme-là, parfois.
Ouais, il est touchant,
hein.
Oui.
Il exprime assez peu, ouais. Mais parfois.
Mal aussi.
Touchant.
Mais ouais.
Bah, c'est pas son truc, quoi. Voilà.
Non.
Tiens, nouveau club pour Gennaro Gattuso aussi. Sans club depuis mi-février, son départ de Marseille.
Dans un gros club, non
saoudien, non non, non. Ajout Split, les amis.
Ah bon
ouais.
Ah oui.
Ajout Split. Original.
Ouais, c'est une belle destination.
Ouais. Troisième dernier championnat croate. Très belle ville, Split.
Belle carrière.
Bord de la mer Adriatique, superbe.
Oh, alors lui, il se régale. Belle... Marseille, Split.
Attends, il a 46 ans, c'est quoi son 8e club, un truc
ouais.
Comme ça
ouais, belle trajectoire.
Ouais, il fait de belles destinations.
Mais il kiffe, lui. Voilà.
C'est peut-être le plus important.
Toi, t'es Racing, lui, il va à Split. Ouais. Voilà. Bravo à toi, Gennaro. D'autres infos à venir également concernant l'équipe de France.
Les
d'abord, la vie.
Les joueurs, en tant qu'entraîneur, ils ont quand même énormément de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e chance. Hein. C'est...
Oui.
Ancien grand joueur, tu veux dire.
Oui, non, mais oui, ancien grand joueur.
Ancien grand joueur.
Oh, ouais.
Gattuso,
oui.
On a Berriera, je pense pas qu'il aura beaucoup d'offres quand il sera bondé des Girondins.
Ça dépend où.
Gattuso, on aura bien un tweet sur les deux prochaines années à Split, un peu insolite, sur une conférence de presse ou sur.
Attention, dans ce type de championnat.
Ou sur un entraînement.
Dans ce type de championnat, au bout de 4-5 mois, ça peut vite partir.
Ouais, je pense que
on connaît l'histoire, la trajectoire. Au début, tout le monde va dire c'est incroyable, quel charisme, regarde au bord terrain, quelle énergie, quel enthousiasme. Et puis dans 4-5 mois, effectivement. Le crash. Bon, David, ton avis, justement.
Oui.
Tu voulais évoquer la santé de nos clubs de Ligue 1. Comment peuvent-ils s'assainir? Comment peuvent-ils aller mieux dans cette crise brutale des droits télé? Un mois et demi, deux mois de la reprise du championnat, on ne sait toujours pas qui va diffuser nos matchs. Tu estimes que toi, il faut instaurer un salary cap en Ligue 1. Jingle, David.
Il y a deux risques principaux côté Everton.
Ah, vous l'aimez bien sûr.
C'est que le
principaux, mon cher David.
Principaux, même.
Bah, ouais, deux,
j'ai le droit au jingle, là,
bien c'est sûr. Deux fois, mon cher Polo Régis, c'est pas fair play.
Non, si, mais franchement, c'est mérité. C'est mérité.
Alors, pourquoi tu prônes l'instauration d'un salary cap en Ligue 1?
D'un salary cap au sens large.
On va parler français, hein, évidemment, plafond salarial.
Exact, plafond salarial, mais en plus, c'est pas vraiment un plafond salarial, je vous expliquerai après. Je prône l'instauration d'un plafond salarial ou en tout cas d'un mécanisme de contrôle des dépenses parce que cette crise des droits télé nous montre que ça devient plus qu'urgent. J'ai été plus qu'agacé des sorties des différents présidents de Ligue 1 et il est impératif désormais d'ajuster les dépenses aux revenus et pas les revenus aux dépenses. C'est pas normal, par exemple, qu'il y ait 10 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 confondus qui ont une masse salariale qui est supérieure à 100% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire que chaque année, tout ce qu'ils gagnent, ça ne sert même pas à payer leurs joueurs. Plus de 10 clubs. Il y a des clubs qui montent au-dessus de 130%. Voilà. Donc.
T'as des exemples de clubs?
Ah, bah, bien sûr. Bordeaux, Saint-Etienne, Nice, Rennes. Oui, ça, des exemples. Oui, je peux en avoir trois. Ça, c'était en saison 2022-2023. Parce qu'on rappelle que les clubs clôturent leurs comptes au 30 juin de chaque année. Et. Le problème du salaire, l'avantage du salary cap, ça permettrait de nous rendre moins dépendants à trois niveaux. Pas complètement indépendants, mais moins dépendants à trois niveaux. Les clubs de Ligue 1 sont dépendants, tout d'abord, aux droits télé. Les droits télé, c'est quasiment 40% des revenus des clubs de Ligue 1. Ça monte même jusqu'à 68% à Montpellier. On a entendu, par exemple, que Laurent Nicolin n'était pas très content et a même forcé un peu la main de Canal pour faire une offre sous couvert de patriotisme économique. On comprend quand les droits télé, ça représente 70% de tes revenus. Ça réduirait l'indépendance des clubs de Ligue 1 au marché des transferts. Le marché des transferts, je vais vous donner deux chiffres qui vont vous souligner la dépendance des clubs de Ligue 1 au marché des transferts, qui est quasiment une drogue. Les clubs de Ligue 1 perdent 870 millions d'euros en combiné avant marché des transferts, avant droit de mutation. Et 273 millions d'euros après. C'est-à-dire qu'ils ont accès au marché des transferts à hauteur de 600 millions d'euros. Sinon, avant, c'est quasiment 1 milliard de pertes. Donc, dans un marché des transferts où les clubs de Première Ligue, je pense que Julien va nous le dire, se serrent un peu la ceinture.
Avec nous après, oui.
Ou se serrent un peu la ceinture. Où les clubs de Liga, grâce au fair play financier instauré par Javier Tebas, vont dépenser un peu moins. Où les clubs de Serie A ne dépensent quasiment plus rien ou ne sont plus les acheteurs qu'ils étaient avant. C'est se soumettre volontairement aux aléas que peuvent constituer le marché des transferts. Et je passe sur les changements de normes réglementaires, les changements du nombre d'étrangers, les règles post-Brexit qui peuvent impacter l'attractivité des joueurs français. La troisième dépendance qu'il faut réduire en instaurant un plafond salarial, c'est la dépendance à l'actionnaire. Je rappelle que l'année dernière, les comptes courants d'actionnaires, la façon que les actionnaires ont de combler le déficit, ça s'appelle le compte courant d'actionnaires, il est augmenté, il a explosé à 404 millions d'euros. Nice doit 80 millions d'euros à son actionnaire. Rennes doit 80 millions d'euros à son actionnaire. Mais la pérennité d'un club ne peut pas reposer sur la générosité d'une personne physique. Si demain, il décide de retirer la prise, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pour ça que un mécanisme de contrôle des dépenses est absolument essentiel. Il y a deux formats. Le format anglais, qui est pour l'instant de dire vous avez un déficit maximum autorisé sur 3 ans, et vous ne pouvez pas le dépasser.
123 millions d'euros.
123 millions d'euros.
Que certains dépassés, on en parlera dans un instant.
Que certains dépassés ont été sanctionnés, mais ça permet de rester compétitif tout en se permettant certaines largesses. Mais il y a quand même un contrôle des dépenses. Et l'autre, qui de toute façon va nous être imposé, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce plafond salarial dont je suis en train de vous parler, l'UEFA l'a déjà mis en place. Il a mis en place ce qu'on appelle un squad cost control ratio, c'est-à-dire que les dépenses joueurs, c'est salaire, indemnité de transfert, plus commission d'agent, vont être limitées à un pourcentage des revenus, qui sera décroissant. C'était 90% cette année, 80% l'année prochaine et 70% l'année d'après. Donc de toute façon, nous y serons obligés. Donc alignons-nous, légiférons. C'est pas normal que les clubs de Ligue 1, qui au passage, ont dévié de l'ordre de 27% entre ce qu'ils présentent à la DNCG et ce qu'ils dépensent réellement, soit à la merci d'un changement du marché des transferts, du marché des droits télé ou de la générosité d'un actionnaire.
L'équilibre est beaucoup trop fragile pour nos clubs de Ligue 1, bien sûr. Tiens, il y a Étienne qui a appelé au 32-16, qui voulait réagir. Salut Étienne.
Salut Étienne.
Bonsoir Étienne, bienvenue.
Bonsoir Nico, bonsoir David, bonsoir les deux Bordelais, bonsoir aux
Elton et Walid également.
Et allez, bonsoir à celui qui fait une émission de plus.
Étienne, supporter de l'AS Saint-Étienne. Bon, est-ce que tu es pour toi l'instauration d'un plafond salarial en Ligue 1? Est-ce que tu n'as pas peur que justement ça limite l'ambition de nos clubs?
Alors, sans parler de pour ou de contre, moi j'aimerais juste donner un exemple. Après, ça vaut ce que ça vaut. Du coup, je vais donner mon club de cœur. La SSE, pour la saison 2009-2010, la SSE, à son échelle, donc à l'époque, avait dépensé sur le marché estival 23 millions d'euros sur Boubacar Sanogo, Gonzalo Bergesio, Freddy Guarin, peut-être ça doit vous parler.
Bien sûr, ça nous parle.
Fin de saison, on fait 17e. Et à courte saison, on vire le coach, on prend Galtier pour un intérim de 2 matchs, qui à l'époque était adjoint.
Il a hésité d'ailleurs. Il a hésité d'ailleurs, il ne pouvait pas trahir Alain Perrin.
Ouais, et il a bien fait de pas hésiter, il a bien fait de foncer du coup. Et il se trouve qu'on avait fini cette saison 17e, et ensuite est arrivé le mercato estival, et là, donc, les dirigeants de l'époque avaient mis en place le salary cap, c'est-à-dire qu'à la SSE, il n'y avait pas un joueur fixe qui gagnait plus de 90 000 euros,
c'est ça, oui.
Et avec les primes, ça pouvait monter jusqu'à 200 000, donc ça nous a permis de monter une équipe avec des joueurs, dirons-nous, honnêtes de Ligue 1. Donc, je ne vais pas reciter ce que j'avais qualifié de mieux York Nature à l'époque, Coat, Clément, Lemoine. Ça nous a permis de faire venir des joueurs comme France, des joueurs de devoir, en fait, hein, tout simplement. Mm-hmm. Et avec ça, avec une sorte de colonne vertébrale, ça nous a permis de travailler avec des gens, en fait, qui n'étaient pas là pour l'argent, tout simplement. Mais bon, après, c'était déjà il y a un autre temps, c'était à 13 ans. Ça nous a permis de travailler dans la durée, d'avoir des bons résultats, mais sauf que à la fin, entre guillemets, quand c'est un peu parti en brioche, il y a eu un réflexe dépensier. On avait pris Jean-Louis Gasset, qui lui était venu et qui avait
Cazeri, Debuchy.
Exactement.
Voilà, moi je lui jette pas la pierre.
Pour bien finir la saison aussi, justement.
Qui avait permis de faire sixième, non?
Exactement, ouais. Sixième de Ligue 1. Ouais. Ça n'a pas marché à la fin. T'as raison. Enfin, peut-être ce système-là instauré à Saint-Étienne, mais parce que c'était le seul club qui le faisait. Si c'est harmonisé en Ligue 1, si c'est une règle nationale, tout le monde sera jugé sur le même pied d'égalité. Même fonctionnement.
Et c'est pour ça que j'ai deux questions très importantes à poser à David.
Vas-y.
C'est dans un premier temps, est-ce que le fait d'avoir un salary cap, ça rendrait la mariée la plus belle?
Mais bien la réponse, David, dans un instant.
On fait une pause. Il va te répondre, mon cher Elton. D'abord le basket avec Arnaud Valadon. Où en est-on ? Est-ce que le Paris Basket est toujours très loin de l'AS Monaco ?
Ouais, 20 points de retard à 8 minutes de la mi-temps. 41-21 pour Monaco. Je vous ai parlé des 15 points de Mike James. Le deuxième meilleur marqueur est aussi français. C'est le pivot de l'ASM, Mam Jaïté, avec ses 10 points. Finale à sens unique. On rappelle, si Monaco gagne ce soir, ce sera le titre pour les Monégasques.
Tout à l'heure, Arnaud, on poursuit la question. La réponse de David à Elton, bien sûr. Tu voulais dire quoi ?
Non.
Ce sera après la pause, cher Elton. Walid est avec nous, David et Elton, sur RMC Génération After. À tout de suite.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Elton Mokolo, avec Walid Acharchour et avec, j'allais dire le nom d'un joueur de tennis, mais c'est bon, on va arrêter avec ça.
Non, vas-y, aucun
David
problème.
Guzman.
Je le prends.
Est avec nous, bien sûr. Ça aurait été un peu lourd. Alors, je propose de reformuler ta question, mon cher Elton, de la reposer surtout à David. On parlait donc d'un salary cap que David aimerait voir instaurer en Ligue 1. Mm-hmm.
Alors moi j'avais une question, est-ce que le salary cap rendrait la mariée plus belle, c'est-à-dire est-ce que Ineos et notamment les nouveaux propriétaires de Saint-Etienne seraient arrivés avec ce salary cap? Et deuxième question,
Ineos Nice.
Et deuxième question, est-ce que il y aurait pas l'impression d'être le dindon de la farce, à savoir que si on fait le salary cap, quid des autres pays européens?
Non mais alors,
parce que c'est ce qui a été avancé par exemple en Espagne aussi. Nous on s'harmonise au niveau du salary cap, mais par contre qu'est-ce qu'ils font les autres?
D'accord. Non, mais alors, je vais répondre à ta première question. La première question, c'est que, concernant Saint-Etienne, heureusement qu'ils sont arrivés. Parce qu'il n'y avait plus de salary cap, et Saint-Etienne avait un capital joueur quasiment nul, un actif joueur quasiment nul, et une masse salariale démesurée. Ils ont énormément investi, notamment sur le plan salarial, pour monter. Donc, heureusement qu'ils sont arrivés, Tanenbaum et Gazidis. Et, un investisseur, quand il arrive dans un club, il a envie, le club, s'il est profitable, s'il est pérenne ou si les pertes sont réduites, bien évidemment, il va être beaucoup plus attractif. Tes premiers euros seront pas pour combler un déficit, mais seront pour créer de la valeur. C'est tout le problème de Bordeaux. Pourquoi Bordeaux a eu du mal pendant longtemps à trouver un investisseur? Et là, on parle d'un prêteur et pas d'un investisseur en fonds propres. Parce que le déficit était trop important, la masse salariale était démesurée. Et il n'y a pas un investisseur qui va se dire, ah non, mais ok, d'accord, mais moi, pour que je commence à investir, j'ai 40, 50, 60 millions de trous à combler. Après, en ce qui concerne l'attractivité de la Ligue 1 et la compétitivité de la Ligue 1, c'est un des championnats. D'ailleurs, l'hiver dernier, c'est le championnat le plus dépensier. Avant, c'est un championnat qui est plus dépensier que la Liga, plus dépensier que la Serie A. Et ça ne nous a pas forcément aidé sur le plan européen. La question, c'est non pas la compétitivité, mais aussi la pérennité des clubs, pour qu'on soit capable d'être performant sur la durée. Et dépenser moins et mieux, ça permettrait de mettre l'accent sur la data, sur le scouting, sur
mais
la formation.
Mais c'est plus compliqué.
Et
il faut avoir des idées, être
mais
prêt, effectivement. On a lâché un peu ce qui faisait notre particularité. Hein,
exactement, mais il faut y revenir.
Tout à fait. J'accueille Julien Laurence dans Génération After. Bonsoir Julien.
Salut Nico, salut à tous.
Heute Abend, Julien. Julien est en Allemagne.
Salut,
son euro a déjà commencé, je crois depuis hier. Il a rejoint.
La superstar est en place.
Il est en place. Alors j'ai vu l'arrivée de l'équipe de France là. Il y avait du monde sur le tarmac. On m'a dit que c'était la même chose pour Julien quand il a débarqué mardi. T'es où d'ailleurs, Julien, exactement là?
À Berlin. T'es à Berlin en ce moment. Et après, je vais voyager un petit peu partout, mais ouais, la base est à Berlin.
Bon, Julien, on voulait que tu sois avec nous ce soir dans Génération After, hein. C'est pas tout à fait nouveau, mais il y a une panique, hein, qui est en train de prendre en Angleterre. 6 clubs anglais, hein, Newcastle, Chelsea, Aston Villa, Everton, Nottingham Forest, Leicester, sont menacés de sanctions s'ils ne lancent pas une opération déstockage, hein, cet été de leur effectif. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Oui, c'est vrai, on a un fair play financier maintenant en Angleterre qui s'appelle le PSA, qui est en gros, c'est des règles similaires du fair play financier ou de la DNCG en France, par exemple, ce qui est assez nouveau pour les Anglais. Et donc, tu n'es autorisé qu'à dépenser, de perdre sur 3 saisons 105 millions de livres, donc environ, on va dire, 115 millions d'euros. sur ces trois années-là, donc depuis 2021 jusqu'à 2024, c'est les trois dernières saisons. Sur ces trois saisons-là, tous les clubs anglais sont uniquement autorisés à avoir un déficit donc de 115 millions d'euros maximum. Si tu l'as dépassé, comme on l'a vu avec Everton et Nottingham Forest par exemple sur ces derniers mois, tu risques une sanction financière, une déduction de points dans ton championnat, etc. Ce genre de choses-là. Et effectivement, les six clubs que tu as mentionnés, Nico, sont dans cette situation où, selon les comptes qu'ils vont donner à la Première Ligue, il se pourrait effectivement qu'ils dépassent cette limite des 115 millions d'euros de pertes sur les trois dernières saisons.
Est-ce qu'il y a vraiment une vraie menace qui existe? Ça veut dire concrètement que Newcastle, Chelsea, Aston Villa vont devoir très vite, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, vendre des joueurs qu'ils n'auraient pas forcément eu envie de vendre. Bon, Chelsea, c'est plus simple, hein, parce qu'il y a toute une colonie, sous peine d'être sanctionné. Quand j'ai sanctionné, c'est ce qu'on a vu avec Everton, c'est retrait de points, notamment, dès avant même la saison prochaine, par exemple.
Exactement. Ils ont jusqu'au 30 juin, puisque c'est au 30 juin que tu termines tes comptes pour la saison. Après le 30 juin, tu peux vendre encore des joueurs, tu peux faire ce que tu veux, avoir des nouveaux contrats, sponsors, etc. Mais ils seront pour la saison suivante, pas pour la saison 2023-2024, logiquement. Donc effectivement, le temps presse un petit peu. Alors, en Angleterre, il se dit aussi que pour Chelsea, Aston Villa, pour les trois plus gros des six, c'est plus gérable, entre guillemets, que les trois plus petits, qui aussi risquent d'avoir quelques soucis. Et pour Newcastle, c'est un peu particulier. Visiblement, ce que le club dit, c'est qu'il pourrait laisser partir un ou deux joueurs du banc pour pouvoir garder les stars, donc les Isak, les Guimarães, les Botman, ce genre de joueurs-là. Et donc plutôt se débarrasser de joueurs qui ont une certaine valeur, hein, 15 millions, 20 millions d'euros par-ci par-là, pour pouvoir équilibrer justement les comptes. Mais ce qui est vrai en tout cas, c'est que s'ils voulaient recruter par exemple, aller chercher un nouveau joueur à 50 millions d'euros, 70 millions d'euros, un petit peu comme ils l'ont fait par le passé, là en revanche, il faudrait se séparer d'un très gros joueur pour pouvoir, en fait, en gros, ils peuvent acheter que ce qu'ils ont vendu avant. Voilà. Mais au niveau des comptes, je pense qu'ils devraient être bons. Cette saison en tout cas, sans avoir à vendre un Isak ou un Guimarães.
Sauf volonté, hein, d'une stratégie sportive de vendre un Isak, un Gordon ou un Bruno Guimarães, bien sûr. Chelsea, c'est pareil. Bon, Chelsea va devoir quand même, quoi qu'il arrive, solder un peu son
effectif. C'est pour ça qu'ils essaient de vendre en fait Conor Gallagher et Ian Madsen, qui sont deux joueurs formés au club, donc ils sont comptabilisés à zéro dans les comptes. Donc tout le produit de la vente sera comptabilisé en plus-value. Il faut quand même
en profit.
Exactement. Et Julien est au courant, c'est qu'ils ont quand même vendu deux hôtels qui appartenaient à Chelsea pour passer le fair play financier quand même. Chelsea, enfin, qui était attenant en fait au stade, c'est quand même une manœuvre un peu risible.
Et il y a une info. Oui, d'ailleurs, c'est pas autorisé encore.
Non.
On n'est pas encore tout à fait sûr que cette vente-là de 90 millions d'euros.
Ça me paraît énorme, effectivement.
Entre dans les comptes. Ouais.
Ah oui. Et Julien, il y a une information que tu as sûrement vu passer cet après-midi, mais c'est le départ probable de Douglas Luiz, qui est un élément référencé en Première Ligue avec Aston Villa. On parle d'un prix où il serait bradé du côté de la Juve.
Ouais, alors bradé, je sais pas, parce qu'ils vont récupérer en échange Samuel Eling Jr. Weston McKennie. McKennie qu'on connaît, puisqu'il a joué en Angleterre déjà. Samuel Eling Jr. qui est parti très jeune dans l'équipe Next Gen de la Juve et qui a plutôt été bon cette saison quand il a joué avec l'équipe première. Plus 20 millions d'euros, je crois. Donc en tout, tu pourrais peut-être évaluer la vente de Douglas Luiz à 60-65 millions d'euros.
D'accord.
Ce qui, tu vois, mais après, c'est.
Je préfère récupérer 70 millions d'euros que les deux joueurs, moi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça le truc. Et ça ressemble aussi un petit peu au Miralem Pjanic, Arthur,
l'échange.
Truc un peu chelou, quoi.
Plus je suis gagnant, j'ai l'impression que.
Ah non, t'es pas gagnant.
T'es pas gagnant du tout. J'ai l'impression de revenir un peu en arrière en cours de récré quand j'avais les mêmes cartes Pokémon et que je devais les échanger à d'autres personnes.
Il y a des grands clubs de Première Ligue, dont Manchester City, dont Aston Villa, qui s'est pas joint mais qui a montré de la sympathie, qui sont en train de remettre en question justement ces règles. L'Angleterre, qui est pourtant le pays le plus libéral, mais qui a la réglementation la plus dure, en disant que ces règles sont anti-concurrentielles. Et il y a Nassef Sawiris, l'actionnaire majoritaire d'Aston Villa, qui dit que ça l'empêche d'investir. Donc cette règle pourrait peut-être être aussi remise en question.
Ah, parce qu'Aston Villa va entrer en Ligue des Champions de la saison
prochaine,
donc eux ils ont intérêt à se renforcer.
Exactement, ils vont peut-être vendre John Duran à Chelsea, 50 millions d'ailleurs.
Julien,
ils ont dépensé beaucoup d'argent l'été dernier, Aston Villa, c'est pour ça qu'ils sont de cette position-là aussi. Tu dois laisser partir Douglas Luiz pour te renforcer avec deux joueurs. Ils ont besoin de se renforcer au niveau de l'effectif, pas forcément des titulaires. Je ne sais pas si Link Junior ou McKennie seront titulaires, mais en tout cas, en termes de quantité de joueurs dans ton effectif, ils en avaient besoin. Mais aujourd'hui, ils sont effectivement un peu prisonniers de ce PSR, donc de leur faire play, de leur DNCG à eux, de leur faire play financier à eux. Ils ne peuvent pas dépenser encore 200 millions d'euros, par exemple, ou 150 millions d'euros, comme ils ont pu le faire par l'été dernier, par exemple, ne serait-ce que l'été dernier. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué pour eux, c'est plus compliqué un petit peu pour tout le monde. Mais tu as raison, je ne sais pas ce que Manchester City a, en gros, pour résumer un petit peu, a porté plainte contre la Première Ligue. À cause justement de ce fair play financier là, ce qui est un peu ironique en soi quand tu sais. Voilà, en gros c'est comme ça qu'ils l'ont justifié entre guillemets, et quand tu sais qu'ils ont 115 charges derrière eux pour ce qu'ils ont fait par le passé. C'est vrai que ça fait un peu sourire tout le monde.
Tiens, Julien, avant que on va te libérer, hein, dans un instant, tu seras pas avec nous, mais Walid va crier son amour à Bruno Guimaraes. Il pense qu'il doit absolument rejoindre le PSG, que le PSG doit tout faire pour l'attirer. Est-ce qu'il a une clause libératoire, Bruno Guimaraes, à Newcastle?
100 millions jusqu'au 30 juin.
100 millions, tout simplement. Voilà. On va parler de ça dans un instant. Merci, Julien.
Moi, je suis à fond avec Walid, hein. Pour moi, Bruno Guimaraes, c'est chapeau 1, merci. Chapeau 1, prime, chapeau tout ce que vous voulez au PSG tous les jours.
Donc, les 100, il faut les envoyer. Quoi.
Tu peux rester.
Bravo, mon Walid.
Tu peux
Bravo.
Rester sur le prochain quart d'heure si tu veux, hein, Julien.
Il a je suis juste là pour te soutenir, moi. Hein. Tu sais, t'es mon capitaine, moi, je suis ton vice-capitaine, c'est bon.
Pour t'accompagner.
Tu devrais te refaire la première heure, là. Les copains, là, ils ont envoyé sur l'Angleterre.
Ah ouais, alors, on a fait une catégorie qui va se cracher.
Là,
2 sur 3 annonce Angleterre. Ouais, crash
là. Oh là ouais. Vous connaissez le mari Paul anglais, hein, vous savez. Hein, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Donc,
bah, bonne soirée à toi, Julien.
Merci les gars. Ciao.
Et bon euro également sur RMC. À bientôt. Dans un instant, la vidéo est justement sur Bruno Guimaraes. Vous pouvez nous appeler au 32-16. N'hésitez pas. Le basket, où en est-on? Arnaud Valadon, Paris-Monaco.
Et toujours cet avantage de plus 24 pour Monaco. On est à 2 minutes de la mi-temps. 57-33. Je vois pas, hormis un gros crash, qui empêcherait Monaco d'aller chercher un deuxième titre de suite de champion de France s'il y a victoire dans un peu plus de 2 quarts temps.
Allez, la suite des générations after dans quelques secondes sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération after.
Nicolas Jamin. Avec Elton Mokolo, David Guzman, Walid Acharchour. Le basket, c'est bientôt la mi-temps. Arnaud Valadon, Paris-Monaco, la finale, match 4.
Dans 30 secondes et un match 4 à sens unique, 63-37 pour Monaco.
Exactement, quasiment 30 points d'écart entre ces deux équipes.
C'était l'écart au match 3, il y a eu plus 29 à l'arrivée aussi.
Hein, bon, Monaco va être champion a priori, même si attendons quand même. À tout à l'heure, Arnaud. Donc, nous écoutons maintenant Walid Acharchour, son avis. Walid espère que le PSG va tout faire pour faire venir Bruno Guimaraes la saison prochaine. Jingle, Walid.
Donc c'est pas un dog. Je viens de me faire gifler de mots là, c'est incroyable.
C'est une soirée avec Thibault Leplat.
Ouais, ouais,
une
très belle soirée, mémorable.
Pourquoi Paris doit tout faire pour attirer l'international brésilien?
On vient d'en parler avec Julien Laurens, avec la situation bien évidemment compliquée à Newcastle et d'autres clubs de Première Ligue. Il y a une vraie opportunité de marché pour le Paris Saint-Germain, pour aller chercher ce qui se fait pour moi de mieux avec Rodri à son poste en Europe, c'est-à-dire au poste de numéro 6, dans un secteur de jeu où le Paris Saint-Germain a été pour moi en difficulté cette saison, où Luis Enrique a été obligé de faire reculer Vitinha. Et je ne comprends pas pourquoi le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de rumeur en fait autour de Bruno Guimaraes. On y a une clause jusqu'au 30 juin de 100 millions d'euros. Ils ont sauté une clause sur Ugarte à 60 millions d'euros l'année dernière. On parle de rumeurs sur João Neves, un joueur qui est très très bon à Benfica, mais qui n'a pas aujourd'hui l'expérience ni la maturité dans son jeu comme Guimaraes pourrait l'avoir. Et on a vu hein, hier ou avant-hier, je crois que c'est Mohamed Bouafsi ici qui disait que le PSG, Vinicius, on parle d'attaquant, on parle de délié pour remplacer Kylian Mbappé. Pour moi, le poste le plus important et le poste le plus prioritaire dans le mercato du Paris Saint-Germain, c'est ce poste de numéro 6 et c'est Bruno Guimaraes. C'est très très dur d'aller chercher Rodri, c'est très très dur d'aller chercher un Declan Rice, c'est très très dur d'aller chercher un Enzo Fernandez aujourd'hui à Chelsea. Il y a une possibilité avec Guimaraes. En plus, le Newcastle va pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Il y a une fibre brésilienne au Paris Saint-Germain qui a toujours existé et qui existe toujours et qui doit continuer d'exister. Et pour moi, c'est vraiment le joueur parfait. Et si on dit souvent, oui, mais le PSG aujourd'hui, ils peuvent pas aller chercher des très très grands joueurs.
bah là il y a une possibilité et j'ai pas l'impression que le PSG fait tout pour le faire, et notamment le directeur sportif. Alors est-ce que il est dans le catalogue? Non, il est pas dans le catalogue, et ça aussi c'est dérangeant, c'est de se dire qu'en fait aujourd'hui le Paris Saint-Germain ne peut pas aller chercher d'autres joueurs c'est pas dans l'écurie Georges Mendes. Ça, moi, ça me dérange totalement, et c'est un dossier que j'ai envie de suivre sur les prochaines semaines, parce que le Paris Saint-Germain là à 20 jours, quand on voit comment ils se sont précipités l'année dernière pour faire Ousmane Dembélé avec cette fameuse clause au Barça, le PSG doit penser matin, midi, soir à aller chercher un joueur comme Bruno Guimaraes. Et j'espère qu'un Luis Enrique, dans sa deuxième saison, va tout faire et essaye de jouer de son rôle pour aller chercher ce type de joueur, parce que le PSG en a véritablement besoin.
Je sais pas s'il y a débat là-dessus, hein. Je pense qu'on est tous
Moi, je suis quand même surpris par Walid Acharchour.
Pourquoi?
C'est-à-dire qu'il met Bruno Guimaraes sur un piédestal. C'est-à-dire que pour moi, Bruno Guimaraes n'est pas l'homme providentiel sur le mercato parisien. Donc, c'est-à-dire qu'on irait.
Prioritaire?
On irait à l'encontre du football de Luis Enrique. C'est-à-dire que le football de Luis Enrique est davantage collectif. Et là, tu m'expliques que début juin, l'homme providentiel doit s'appeler Bruno Guimaraes. Alors qu'il y a des chantiers importants.
C'est une priorité pour moi.
C'est
dans mon esprit.
Ouais, mais là, parler d'un joueur donc qui vaut plus de 100 millions d'euros, pour moi ça fait office d'homme
aujourd'hui. 100 millions d'euros aujourd'hui, on a mis 60 millions sur Ugarte, on a mis 90 millions sur Colomani. Si tu veux de la qualité, il faut mettre le prix. Oui. C'est-à-dire que quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain et que tu dois repartir sur autre chose avec 4-5 joueurs de très très haut niveau, Bruno Guimaraes fait partie de cela. Et pour moi, c'est vraiment
tu l'as bien dit 4-5 joueurs.
Oui, aujourd'hui le 12 juin, la priorité, il y a une clause qui se termine le 30 juin du côté de Newcastle.
Déjà, t'as un début de réponse. C'est pas la priorité du côté du PSG.
Mais je sais pas si c'est la priorité.
Vas-y, ça doit l'être.
Moi, mon avis, c'est que ça doit l'être.
Au nom de quoi?
Au nom du problème dans ce secteur. Au nom de quoi? Quand tu peux permettre à Vitinha d'aller au poste de numéro 8, d'avoir un vrai joueur au poste de numéro 6 et de gagner en qualité. C'est-à-dire que si tu vois pas aujourd'hui la plus-value.
Aujourd'hui, t'as pas vu l'avènement d'un Vitinha sur la phase éliminatoire de Ligue des Champions?
Je l'ai vu au poste de numéro 6, mais je pense qu'encore une fois, avec un Bruno Guimaraes qui pourrait le soulager, il pourrait être soit meilleur, soit.
Il y a une volonté de Luis Enrique affichée clairement, c'est de faire monter plus haut sur le terrain Vitinha.
Que Guimaraes est un joueur qui peut jouer 8 et qui peut jouer 6.
Exactement, c'est deux joueurs complémentaires.
Totalement.
Et surtout qu'on a vu notamment contre Dortmund que face à Emre Can et Sabitzer, le milieu de terrain du PSG était en souffrance. Et pour affirmer la priorité Bruno Guimaraes, c'est quand même quelqu'un qui a joué cette saison et qui a été performant cette saison, c'est 7 buts, 8 passes décisives, en jouant à côté de Sean Longstaff et Luis Maili. C'est-à-dire que deux joueurs qui ne sont pas du tout référencés en Première Ligue. Et parfois,
il a tenu le milieu de terrain.
Il a fait plus que tenir le milieu de terrain, il a rayonné sur le milieu de terrain. Donc après, oui, enfin c'est un joueur polyvalent qui peut jouer 6, qui peut jouer 8, qui peut être beaucoup plus agressif, qui peut te permettre d'aller chercher plus haut.
Ouais, mais il est davantage dans la réalité d'un numéro 8 aujourd'hui. Donc
non, il peut jouer numéro 6 devant la défense. Il l'a fait à l'Olympique Lyonnais.
Il y a quelque chose de contradictoire, parce que aujourd'hui tu parles d'un joueur qui s'est davantage imposé, et je pense au contrôle de David, en tant que numéro 8. Et toi, tu veux le rester dans un.
Je l'ai beaucoup vu l'année dernière.
Non, il joue
au poste de numéro 6.
Il joue en 6, mais ça dépend ce que tu demandes.
Bah oui, c'est ça.
Non, encore une fois, Luis Enrique aura la possibilité de pouvoir constituer un milieu de terrain de très très grande qualité. Aujourd'hui sur le marché, aujourd'hui sur le marché actuel, on est le 12 juin, il y a Bruno Guimaraes qui a 26 ans, qui a montré avec Newcastle et avec l'Olympique Lyonnais une capacité à pouvoir contrôler pas mal de rencontres. Tu es le Paris Saint-Germain, tu ne pourras pas avoir mieux à l'instant T, tu dois foncer sur Bruno Guimaraes. Et mon avis du soir, c'est je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas d'info là-dessus, quoi.
T'interdis au PSG de bien travailler. Donc,
il peut y avoir d'autres pistes.
J'espère, en tout cas.
Tu leur fais un procès d'annonce.
J'ai dit qu'ils doivent foncer.
Ils sont libérés de la masse salariale. Ils n'ont aucune raison d'attendre. Ils attendent de quoi? Que City bouge, qu'Arsenal bouge. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'ont aucune raison d'attendre. Quand tu as cette opportunité-là d'avoir un joueur à 100 millions qui est payable en 3 fois, tu bouges, en fait. Je te dis pas qu'ils bougent pas, mais c'est quoi? Pourquoi ils attendraient? C'est stratégique d'attendre sur Bruno Guimaraes?
Justement, du côté du PSG, je suis pas persuadé que Bruno Guimaraes soit une évidence. Est-ce qu'on peut leur faire le procès par rapport à ça? Je n'en suis pas persuadé, parce que je pense que il y a des milieux de terrain.
C'est quoi la priorité, en fait?
Moi, je pense que du côté de la direction du côté du PSG, tu dois recruter des joueurs qui seront en capacité d'être des joueurs importants du côté du PSG.
Bah, Bruno Guimarães.
Guimarães
peut l'être. Oui, Bruno Guimarães peut l'être comme d'autres joueurs.
Bah, moi, je parle de Bruno Guimarães.
Mais là, ce que tu fais, moi, ce qui me dérange, c'est que tu fais de Bruno Guimarães l'homme providentiel.
Il doit être prioritaire au milieu de terrain. Oui, pour moi, c'est mon idée, c'est mon avis.
Pour toi, c'est l'homme providentiel.
Oui, aujourd'hui, ça doit être une cible prioritaire.
C'est une question de rhétorique, providentielle, prioritaire. Tu veux dire que dans le mercato à venir du PSG,
tu prends pas Bruno Guimarães au PSG.
Mais pas ce prix.
Donc en fait tu prends qui en fait
dans la trajectoire sportive du PSG, arriver à attirer Bruno Guimarães, ce serait un accident, mais un accident positif pour le PSG. Bon, et parce que la prochaine étape c'est quoi? C'est Arsenal, Manchester City, un top club de première.
Le joueur aussi un libre arbitre. Hein,
bien évidemment. Mettons-le dans l'embarras.
Non, mais le problème de Walid Acharsour,
c'est que sur Bruno Guimarães, il fait du tout ou rien. C'est-à-dire Bruno Guimarães ou rien.
Mais excusez-moi, qui a dit ou rien? Je suis en train d'expliquer qu'aujourd'hui, ça doit être une piste prioritaire.
Vous allez
projeter
le débat hors antenne dans les couloirs des RMC sans problème. Dans un instant, l'after arrive avec Thibaut, comme tous les soirs jusqu'à minuit. Daniel est là aussi, déjà vous l'avez vu sur la chaîne YouTube, il a même participé, il a même soufflé quelques arguments, il a tenté en tout cas de le faire. L'after dans quelques secondes sur RMC, bonne soirée à tous.